Vous avez terminé le dernier cours en posant cette question. Comment pouvons-nous retrouver le réalisme après Descartes et Kant? On est des petits-fils de Descartes. On est des petits-fils de Kant. Sans le vouloir, hein. On n'a pas opté. On est né après eux. Donc, ce sont des grands-pères. Et c'est vrai, ils ont secoué énormément la philosophie. Il y a des néo-kantiens. On en a vu ici. Nos chers néo-kantiens. Il y a des néo-cartésiens. Comment pouvons-nous utiliser cette erreur, celle du primat de la pensée, donc de la subjectivité, pour redécouvrir le primat de l'être sur la pensée? Vous voyez, au fond, c'est toujours le même problème, nature et personne, d'une façon différente, dite du côté de la critique. Du côté de la critique, c'est ça. Les bons Grecs, c'était nature, la phusis. Même si Aristote arrive à découvrir le nous. Le nous ne peut pas se réduire à la phusis. Donc, leur problème était très différent du nôtre. C'était le dépassement de la nature. La subjectivité, le sujet est tombé dans la subjectivité. Il y a eu quelque chose de très intéressant. Et ça a commencé, il ne faut pas l'oublier, hein, ça a commencé au XIVe siècle par les théologiens. C'est pas étonnant, puisque à cette époque-là, les théologiens avaient encore la maîtrise de la civilisation occidentale, en dehors de Kant. On a évidemment en Chine et dans l'Inde un progrès qui a été très différent pour nous. En Occident, peut-être qu'on est plus facilement révolutionnaire. J'ai remarqué que les Chinois le sont aussi. Mais ça dure. En Occident, tout va très vite. C'est peut-être la maladie de l'Occident, c'est que tout va très vite. Alors, c'est pas assez assimilé. Et ça provoque d'autres maladies. Au fond, on a commencé par la nature. La nature, c'est l'objectivité. Et la personne, c'est la grandeur du sujet. C'est pas le subjectivisme, mais c'est la grandeur du sujet. Pouvez-vous y revenir? Cela peut-il s'expliquer à différents niveaux? Par exemple, au niveau pratique, du primat de la liberté à la redécouverte de la finalité, du règne de la conscience subjective à la prudence ordonnée à la fin, de la loi à l'amitié. Donc, à trois niveaux. Et au niveau spéculatif, de la sincérité à la liberté, de la mesure objective à la découverte de ce qui est, de la certitude à l'évidence, au-delà de la totalité de la connaissance, la découverte de la sagesse. Est-ce le problème métaphysique de la personne qui permet de bien saisir cela, de situer tout en la dépassant, ce que la philosophie moderne a d'intéressant. La philosophie moderne, elle quitte de plus en plus sa nature, avec certains qui l'ont exaltée. Mais au fond, de fait, le mouvement, c'est beaucoup plus l'exaltation de la subjectivité. Et au fond, au point de vue pratique, on peut dire le primat de la liberté, la conscience subjective, à un point tel qu'on dit c'est un problème de conscience, comme si c'était l'absolu. Et l'amitié à la place de la loi, au-delà de la loi. D'un point de vue pratique, c'est très vrai. Et au point de vue spéculatif, on voit très bien que la sincérité, au fond, c'est le problème foncier. Il est sincère. Du fait qu'il est sincère, très bien. On n'a plus rien à lui dire. Il est sincère. Il tue avec sincérité. C'est ça. La sincérité n'a pas d'autre loi que nous. De la mesure objective, oui, de la connaissance objective en quelque sorte, à la découverte de ce qui est. Oui, là c'est plus délicat. De la certitude à l'évidence. La certitude, ça va avec la sincérité. De la certitude. Mais la synthèse est encore nous. Ce qu'on atteint, notre connaissance, le connu, qui arrête sorte la sagesse. Oui, et ce que je vous disais tout à l'heure au sermon, je ne savais pas qu'il y avait ça, mais au fond c'est ça aussi, de ce que nous connaissons, nos idées, au mystère. Nos idées, nous les avons. On a été jusqu'à dire l'idée de Dieu. Même le bon père Garrigou, qui était un saint homme, par la scolastique, parce que c'est en fond, c'est la scolastique qui a conduit à ça. Saint Thomas ne parle jamais d'idée de Dieu. Dieu, nous l'atteignons non pas par sa quidité, mais parce qu'il existe. Et beaucoup de gens nient Dieu parce qu'on leur a dit l'idée de Dieu. Ils n'en veulent pas l'idée de Dieu. Dieu ne peut pas être dans une idée, il peut mesurer. Alors la mesure objective, ce serait la définition, le primat de la définition. prime à la définition, qui va avec la sincérité, qui va avec les certitudes, et qui va avec la synthèse. La synthèse. La synthèse, c'est tout. Ah, c'est très vrai qu'on est dans ce climat-là. Alors, et c'est vrai qu'il doit y avoir un dépassement pratique, un dépassement spéculatif. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce que Occam, comme théologien, 14e siècle, a découvert le premier, Occam, un franciscain, dit que le premier objet de la connaissance, c'est notre connaissance. C'est moi. Et comme il est franciscain, il agite. Le premier objet de la connaissance, c'est la connaissance elle-même spéculative. Et amo Socratem, ça c'est le franciscain. Et j'aime Socrate. J'aime l'homme. À partir de là, il a édifié toute une théologie qui est le protestantisme avant le protestantisme. Et les papes d'Avignon, c'était l'époque des papes d'Avignon, l'ont condamné. Mais le germe était là. Et Descartes a eu comme professeur des professeurs qui étaient occamiens. Et ça explique beaucoup de choses. Puisque Occam, avant Socrate, a dit que la connaissance était à elle-même son objet. Je connais. Du fait même que je connais spéculativement, c'est ça qui est premier. Et on reste enfermé dedans. Donc, c'est intéressant de voir le point de départ. Au fond, Socrate a mis en français ce que Occam disait en latin. Puisque au XIVe siècle, il était bien évident. Et Occam était anglais. C'est intéressant parce que on voit l'erreur en Angleterre, l'erreur en français, l'erreur en Allemagne. Donc, toute la pensée de l'Occident. Et les erreurs, ça se répète. Ça ne s'invente pas. L'erreur, on ne peut que la répéter. On voit une chose qui se répète tout le temps, ça veut dire que c'est une erreur. On ne répète rien, jamais aussi bien qu'une erreur. C'est très curieux du reste. Parce que la vérité, elle nous fait penser. Et chacun de nous, nous la saisissons un peu différemment. Tandis que quand une erreur se répète tout le temps, alors on peut dire, non, c'est une erreur. Puisque c'est un cours de critique. Alors, c'est au fond très intéressant de voir comment cette erreur première d'un théologien et pourquoi le théologien aboutit à cette erreur. C'est peut-être ce qu'on doit regarder, puisque Descartes vient de là. On ne le dit pas hors ordinairement, on pense que Descartes a inventé tout ça, mais non. Ses professeurs disaient ça. Il l'a répété avec l'astuce de Descartes, c'est qu'il écrivait en français. Alors ça s'est répandu beaucoup. Occam n'écrivait pas en anglais. Il écrivait en latin. Alors, grâce au latin, il y a une muraille. La scolastique s'est communiquée en latin. Et dès que les langues vulgaires ont commencé à dominer, la scolastique tombe. C'est un phénomène très curieux, ça. Mais je crois que c'est très important de le voir. Pourquoi la théologie a un primat subjectif très important? Parce que Dieu, la négation est première. Dieu n'est pas composé, il est simple. Or, la simplicité, vous ne la connaissez qu'à partir de la négation de la composition. Et quand vous regardez attentivement le premier article de la Somme, c'est très intéressant de voir ça. Combien la négation est première. Et l'affirmation s'appuie sur cette négation en disant Dieu est omnino-simplex. Il est tout à fait simple. C'est-à-dire qu'il dépasse toute négation. Je crois, alors ça, c'est une idée personnelle, mais je crois qu'elle est juste. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Je crois, pour Aristote, l'affirmation est première. Pour cela, la négation est première. Parce que quand la théologie remplace la philosophie, c'est le grand danger du fidéisme. Et nous sommes en plein fidéiste actuellement. Les chrétiens sont fidéistes, la plupart. J'ai assisté à une seule conférence de Paul VI, une seule. C'était là-dessus. Le plus grand danger actuel du catholicisme, c'est le fidéisme. Et il l'a répété plusieurs fois. Le plus grand danger pour l'Église catholique, c'est le fidéisme. Or, le fidéisme consiste à dire que l'intelligence humaine, étant blessée par le péché, ne peut rien dire de vrai. Seule la foi dit la vérité. Et alors, on apparaît comme un très bon catholique quand on dit ça. Mais c'est l'erreur de Luther. Alors, il faut, je crois, si on fait un cours de critique, comment on est arrivé à ce primat de la subjectivité? Bon, on peut comprendre tout simplement, c'est que nous aimons beaucoup la négation. Et c'est peut-être une conséquence. Le péché mignon de chacun d'entre nous, c'est de nier d'abord. On attaque l'autre en le niant, en disant qu'il est bête, en disant qu'il n'a rien compris. On nie. Alors que pour Aristote, c'est l'affirmation qui est première. Et ceci, je dirais, c'est du bon sens. Dans votre vie, et votre vie commence par le facere. Dans le facere, la cuisine, mais c'est l'affirmation. Il faut chauffer les choses avant. il faut les manger, les goûter, pour voir si c'est bon. La négation est après, dans notre langage, l'affirmation est plus simple que la négation. Elle vient après. La négation est plus complexe. Donc, elle s'ajoute à l'affirmation. L'affirmation est première. Je crois, alors là, que la modernité, avant la subjectivité, mais la modernité, c'est, je dirais, a saisi la subjectivité pour se développer. Et la première erreur, c'est de mettre la négation avant l'affirmation. Et le théologien, qui n'est pas philosophe, et qui est simplement théologien, comprend que pour Dieu, saint Thomas le dit du reste, et c'était dit avant, c'est pas saint Thomas qui, c'est pas saint Thomas n'est pas original en disant ça, que lorsqu'il s'agit de la connaissance de Dieu, la négation est plus vraie que l'affirmation. C'est une parole très très profonde du théologien, ça. La négation est plus vraie que l'affirmation. Et ça, c'est le caractère du théologien. Si le théologien remplace le philosophe, la négation est première. Et la négation étant première, la subjectivité est première. Parce qu'on nie l'objet. Vous n'avez qu'à réfléchir pourquoi on aime tellement de nier. Qu'est-ce qui se passe quand on nie? On se glorifie. Vous vous glorifiez chaque fois que vous niez. Vous êtes plus intelligent. Vous dites non. Vous supprimez tout objet, et il y a un primat du sujet. Alors, je suis persuadé, personnellement, que, avant la subjectivité prise comme un absolu, il y a la négation prise comme un absolu. Parce que si vous, la négation est première, elle est un absolu. Et l'affirmation vient seulement après, comme quelque chose de relatif. Quand vous niez, vous affirmez le primat du sujet sur l'objet. Puisque l'objet n'existe pas, il n'est pas. Vous voyez ? Socrate. Sartre exalte la négation d'une façon très très spéciale. Je me précipite au café et je dis « Pierre n'est pas là ». Et je repars victorieux. Pierre n'est pas là. C'est Pierre que je cherchais. Et j'étais relatif à lui. Et il n'est pas là. Je sens victorieux. C'est très curieux, ça. Parce que pour Sartre, c'est dit alors avec éclat que la négation est première. Alors, je crois qu'en critique, on doit être très attentif à bien remarquer que le primat de la négation, mène à une subjectivité première sur l'objectivité. Et partir de là, on comprend qu'on développe la subjectivité pour elle-même, indépendamment de l'objet, pour elle-même. Et alors, on aboutit justement à ce primat de la subjectivité. Vous voyez ? Et ce primat de la subjectivité s'est donné de façon différente. Mais je crois que, au point de vue critique, il faut bien comprendre que le primat de la subjectivité provient de la théologie mal digérée. Ce qu'on nie de Dieu est plus vrai que ce qu'on affirme. Ce qu'on affirme de Dieu est analogique. Ce qu'on nie de Dieu est nous-mêmes, notre connaissance. La négation n'est pas analogique. La connaissance analogique est une connaissance pauvre. C'est facile d'être victorieux en face d'une connaissance pauvre. Et donc la négation est première. Alors, cette subjectivité est née d'une culture qui s'est développé par les théologiens. Et elle est propre à une culture théologique. Et c'est vrai, notre Occident a été d'abord grand par les théologiens. La grandeur de Thomas d'Aquin, c'est la grandeur d'un théologien, et Thomas d'Aquin n'a pas donné une nouvelle philosophie. Non, ce n'est pas la peine. Il a donné une théologie. Et les successeurs de Thomas d'Aquin n'ont pas eu le courage de faire ce qu'avait fait saint Thomas, revenir à Aristote. Ils ont pris dans saint Thomas une philosophie, mais ils ont pris la philosophie à partir de saint Thomas, donc à partir du théologien. Une philosophie qui se prend à partir du théologien est une fausse philosophie. C'est une philosophie qui a été servante de la foi. Et donc, il n'était pas première. Or, toute la dignité de la philosophie, c'est d'être première au point de connaissance. Et parce que c'est une philosophie qui n'est pas première, avant ça, il y a la subjectivité. Je crois que c'est très important de saisir ça. Parce que ça a été mon souci pendant des années et des années. Servir, qu'est-ce que c'est que la modernité ? Bon, la modernité, c'est le primat du sujet. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Pourquoi ce primat du sujet ? À cause du primat de la négation. Et c'est très utile de le comprendre, parce que ça nous aide à sortir de cette subjectivité. Alors, c'est la question. Est-ce le problème métaphysique de la personne qui permet de bien saisir cela, de situer tout en la dépassant, ce que la philosophie moderne a d'intéressant? ce que la philosophie moderne a d'intéressant, c'est de mettre ce que la philosophie moderne dit en second lieu. Elle cite, elle a pris le droit d'aînesse. Vous savez que c'est une fameuse discussion, le droit d'aînesse, hein, Jacob et Ésaü, hein. Et ça fait grincer des dents, Ésaü, il se montre bien. Jacob et Ésaü. Il avait vendu son droit d'aînesse. Alors, le théologien, il vend son droit d'aînesse. La théologie a un droit. Est-ce que c'est un droit d'aînesse? Non. La théologie présuppose la nature. Dites ça aux théologiens modernes. Hein. La théologie présuppose la nature. La foi est toujours seconde pour être première dans la finalité. La foi est première dans la finalité. Mais n'est pas première génétiquement. On baptise un être vivant. Donc il y a l'être vivant avant. Mais l'intelligence est vivante avant la foi. Et la philosophie qui abdique ce droit d'aînesse pour laisser la foi première, ça ne va plus. Il faut chercher où la théologie et la foi a un droit d'aînesse. C'est dans la finalité. Donc, le seul moyen d'en sortir, c'est de regarder la finalité qui avait été complètement perdue par la scolastique. Vous voyez ? Et c'est pour cela j'insiste tellement sur cette découverte de la finalité. C'est le seul moyen d'assumer toute cette subjectivité. Cette subjectivité, si elle est finalisée, ne me gêne pas, parce qu'elle appelle nature. Je limite, je canalise la subjectivité par la finalité. Je crois ça très important. Et historiquement, c'est très intéressant de voir qu'au fond, on avait perdu la possibilité d'assumer la subjectivité parce qu'on considérait que la causalité finale n'était pas une véritable causalité qui pouvait nous aider à découvrir la sagesse. On est actuellement dans un monde qui ne sait plus ce que c'est que la sagesse et qui a l'exaltation de la science. Et dans l'exaltation de la science, c'est les mathématiques qui passent avant. C'est dans les mathématiques, Aristote dit ça, il le dit déjà dans le Dianima, c'est les mathématiques qui ont la certitude la plus forte. Et donc, c'est la science la plus humaine. C'est les mathématiques. La grandeur des mathématiques, c'est qu'elle est vraiment typiquement humaine. Elle pousse l'homme très loin, mais elle ne le pousse, elle ne lui fait pas découvrir sa vraie finalité. Donc le seul dépassement par rapport aux mathématiques, c'est découvrir la finalité. Si vous découvrez la finalité, vous découvrez le sens de la subjectivité. Mais vous montrez que la subjectivité doit se soumettre à la finalité. La subjectivité n'est pas ce qu'il y a de plus grand et de plus noble. C'est la finalité. Et vous dépassez donc la subjectivité par la finalité. Et vous rétablissez par la finalité la nécessité du point de vue objectif premier de la nature. Donc à ce point de vue-là, c'est très intéressant d'essayer, vous voyez, de comprendre pourquoi on insiste tellement sur la finalité. Parce que je vous défie, alors ça absolument, je vous défie de dépasser la subjectivité en dehors de la finalité. Or, c'est la finalité qui est première pour nous en tant que chrétiens. Tout l'évangile, c'est de nous rappeler le primat de la finalité sur la loi. La loi ne nous donne pas la finalité. La loi nous donne le bien commun, mais pas la finalité. La personne ne peut pas se satisfaire de la loi. Parce que la personne, elle ne peut se satisfaire que par le bonheur, la finalité. Alors vous voyez, cette question-là, elle est très intéressante, parce qu'elle montre le sens de nos études. C'est pour dépasser la subjectivité qui est devenue dominante depuis Descartes, depuis Kant, pour la dépasser sans la supprimer. La subjectivité a quelque chose de très important. Parce que ça montre qu'il faut dépasser la nature pour atteindre la personne. Et à la place de mettre la subjectivité au-dessus de tout, nous mettons la personne et nous mettons la finalité. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.